Il y a toujours quelque chose qui me dit que dans cette maison-là, si je rentre, ça va se passer.
Jésus n'a plus ! Jésus n'a plus ! Jésus n'a plus ! Non ! Non ! Non ! Arrête-les ! Arrête-les ! Quand, 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 quand. Ça me donne l'œil. Ça me donne l'œil. Tu vois, il y en a. Il y en a.
Donc le code d'affaires, je dirais que c'est à la fois quelque chose de très facile et de très compliqué. Alors, ce qui est très compliqué, c'est que tu n'as pas droit à l'erreur et tu as très peu de temps pour convaincre et expliquer ce que tu viens faire. Et j'en suis aujourd'hui à me dire que c'est même pas même les premiers mots qui comptent de ce que tu vas dire, mais c'est plus peut-être la manière dont les gens se mettent face à face, se sentent, se reniflent, le premier regard, la première attitude corporelle. Je crois que ça se joue même avant le premier mot, quoi. Alors, ça, c'est ce qui est compliqué. Et puis, je dirais que bah, quand on a le goût des autres, quand on est curieux, quand on aime les gens, je crois, tout simplement, ça se sent. Hein, c'est complètement animal, tout ça. Et je crois que ça se fait assez facilement, quoi. Faut pas être timide, ça fait partie des qualités. Faut bien aimer causer. Il faut avoir de l'intérêt pour les choses, pour les autres, et puis pas que sur l'objet qui t'amène, mais l'intérêt pour l'autre aussi. Hein. S'intéresser à ses rhumatismes ou à ses insomnies, pour moi, ça fait complètement partie de la rencontre avec l'autre et de l'intérêt qu'on lui porte, quoi. Moi, j'aime ça. Alors, dans le collectif, les choses ont évolué. Je dirais que les premiers collectages, bon, ça a été des collectages un peu collectifs, notamment avec André et puis Olivier. Hein, voilà. Ensuite, les premiers que j'ai fait toute seule, mais vraiment toute seule, parce que j'aime bien travailler toute seule, en fait. C'est quand on va voir quelqu'un, quand on va voir un individu, quand on est seul en face, ça marche toujours plus facilement, quoi. Et puis, finalement, j'ai de la chance d'être une femme aussi, parce que je pense que c'est un vrai atout. Parce qu'il y a des situations, notamment quand on va collecter une femme, une autre femme, le rapport n'est pas le même. C'est, bon, déjà, il y a peut-être cette complicité féminine, mais au-delà de ça, je pense qu'une femme, elle ne fait pas peur, elle inquiète moins, ça paraît plus fragile, donc on ne se méfie pas. Alors, j'ai vu une évolution, moi, quand même, à ce niveau-là. Hein. C'est que là où tout était ouvert, mais tout était ouvert, il y a près de 40 ans de ça maintenant, où tu arrivais, des fois tu te retournais autour de la maison à crier « il y a quelqu'un !» La porte de la cuisine était grande ouverte, ça arrive rarement ça maintenant. Si la mémé elle est au jardin, au fond de la poche elle a la clé et on voit quand même une très très grande différence.
Tout au bout du tournant, il y a trois croix, trois montagnes. Tout au bout du tournant, la ville de Saint-Donat. Tout au bout du tournant, trois croix sur trois montagnes. Cette petite fumée bleue y respire le soir. Par la cheminée passe le songe d'un ramoneur et buffe l'eau vin nègre par-dessus les bruyères. Ce soir, à nuit tombante, au pied de Superbès. En les pauvres années 1980, au pied des grands immeubles, droite et les skis s'arrêtent. Sept petits skieurs bleus redescendent dans le noir. Une neige d'avril tombe sur Superbès, une neige d'avril casse le temps qui passe. Ce soir à nuit tombée, soir d'avril immobile, quand les chemins qui tournent seront devenus brumes, on entendra monter dans le beau de la Fouillade la chanson qui ramène les pauvres réveillés. Un camion cantalou roule sur Église Neuve et laisse derrière lui une étrange lueur. C'est l'étrange chanson de ce destin sans nom, des deux amants mariés qui n'ont pas pu s'aimer. C'est leur mort éternelle qui se répand étrange sur fond de landes blêmes de lampadaires oranges. La cloche d'Église Neuve appelle les chanteurs, dans Superbès se dorment des mécréants skieurs. Les deux amants qui courent ce soir au pont de plaine chantent leur pays mort au son d'un violon rouge, le cri d'un chasse-neige ultime mécanique se fond dans la rumeur du chant des réveilleurs. Aux fenêtres des fermes brille un téléviseur d'une danse électrique à la crise torpeur. Au milieu des immeubles s'insinuent les chanteurs, les pauvres réveilleurs passant sans reconnaître d'anciens vallons de brume, de chansons de la lune, où dorment à jamais des histoires insensées. Une sabre du diable qui se joue des années vient lécher les dormeurs d'une amère bourrée. Trois chanteurs de bourrée dansent sur un parking, neige et voiture mêlées chantent de réveiller, chantent la pauvre nuit des amants en détresse, ensorcelant sans bruit les rues de Superbès. Un feu rouge insensible au rythme des danseurs clignote sur la net au rythme des danseurs. Les réveilleurs qui chantent l'allégresse et secrètent l'angoisse jusqu'au matin fini. Jusqu'au matin fini chanteront cette messe. Le printemps revenu, ils auront disparu. Au froid soleil d'avril, trois montagnes s'allument et les dormeurs s'éveillent d'une nuit incrédule. Superbès s'éveille, un cantonnier des neiges. Superbès s'éveille au bruit des téléskis. Pendant que tout au fond, trois croix sur trois montagnes, cette petite fumée bleue y respire le jour. Pendant que tout au fond, trois croix sur trois montagnes,
aujourd'hui, à l'Amta, on en est sur des périmètres beaucoup, beaucoup plus larges, hein, où l'imaginaire des gens rentre en ligne de compte de façon très importante. La manière dont ils se sentent appartenir au territoire sur lequel ils vivent, la manière dont ils s'y sentent aujourd'hui, la manière dont ils s'y sont sentis hier, qu'ils s'y sentent aujourd'hui, et la manière dont ils s'y projettent demain. Et tout. Donc on embrasse un champ qui est beaucoup, beaucoup plus large. Et on travaille aussi aujourd'hui beaucoup sur de l'urbain. Alors, il y a des choses différentes, il y a des choses exactement les mêmes. Alors, ce qui est exactement le même, hein, c'est que les gens sont toujours très sensibles au fait qu'on leur prête intérêt. Ça, c'est un dénominateur commun. Il y a beaucoup de gens, tous, dans ce qu'ils savent, dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils vivent, très souvent, ils se sentent déclassés. Et le fait qu'il y ait un miroir en face qui leur dise là, ce que vous me racontez, sur hier, je ne le savais pas, et ça m'intéresse drôlement parce que ça m'aide à comprendre aujourd'hui. Et puis la manière dont vous vous projetez dans le demain, ça m'intéresse aussi beaucoup parce que je pense qu'il y a beaucoup de politiques publiques qui devraient tenir compte de la manière dont les choses devraient être aménagées, organisées pour que les individus qui vivent ici s'y sentent bien. Donc ça, c'est un dénominateur commun. Que ce soit, qu'on soit dans le rural ou dans l'urbain, c'est exactement pareil. Le deuxième dénominateur commun, et ça, il faut le dire et le redire, c'est que la plupart des gens, ils sont fondamentalement gentils. Mais ça, il faut le dire. Alors, la manière dont je travaille, moi, que je suis du collectage, je ne préviens jamais personne. Parce que je ne me vois pas. Aller expliquer ça au téléphone, hein, je pense que si... mais c'est un choix délibéré. Peut-être qu'il y a des gens qui peuvent le faire. Mais je pense qu'on doit rater comme ça une personne sur 10. Parce que justement, ce que je disais tout à l'heure, dans cette façon d'arriver, d'être avec l'autre, et que l'autre sente tout de suite notre motivation, etc., eh bien, ça détermine complètement la suite du truc. Faire ça par téléphone, je ne me sens pas cette compétence-là. Donc, je ne l'ai jamais fait. Donc, ce qui fait que j'ai fait rôtir un nombre de repas absolument extraordinaire, parce que quand j'arrive à 9h30, 10h dans une cuisine, et que la mémé, elle a déjà commencé à faire le frishti, et qu'on se met à causer, et que ça cause, et que ça cause, et qu'au bout d'un moment, on dit « Qu'est-ce qu'il sent, là ?» Voilà. Et bon, j'ai invité quand même quelques personnes comme ça au restaurant pour me faire pardonner parce que c'est arrivé plusieurs fois. Et donc, ben voilà, ouais, ça c'est tout ça, c'est vraiment la même chose. Après, sur l'urbain, ma première expérience sur l'urbain, elle date maintenant parce que je suis allée à Montluçon en 1989, et alors là où c'est différent, souvent, c'est qu'il faut, il faut se cultiver, parce que autant, je pense, les anciens, là, autant, je pense qu'on est devenus des grands spécialistes et experts de la connaissance du milieu rural et de toutes ces pratiques-là en milieu rural, la musique traditionnelle dite auvergnate, autant il a fallu qu'on apprenne beaucoup chaque fois que l'on a travaillé, vraiment comme à Montluçon, moi c'était ma première grande expérience où je me suis retrouvée avec des Polonais, des Portugais, etc., où je ne savais pas grand-chose sur le sujet, donc il a fallu un peu ouvrir les livres et échanger avec des gens qui étaient spécialistes du domaine. Dans les évolutions aussi de ce travail de collectage, il y a le fait qu'au tout début, j'ai fait du collectage, c'est-à-dire tous ces gens dont je parlais, là, de Mauriac notamment, et puis après les Perriers, il y a un moment complètement fabuleux, tout ça, ce sont des gens que j'ai vus, revus, re-revus, et avec qui finalement j'ai passé tout le temps qu'il fallait jusqu'à ce qu'il quitte cette terre, quoi. Pour certains d'entre eux, comme Germaine Perrier, c'est la grand-mère que j'ai jamais eue. Et j'ai eu une peine incroyable à quitter cette femme. Et c'était la famille, quoi. C'était la famille. Et quand j'allais à Mauriac, là, sur la route... Il suffisait que je fasse un petit crochet de 5 km pour passer les voir à champ. Puis voilà, quoi. J'y étais et... Voilà, on s'écrivait. J'ai beaucoup de lettres de Germaine. Hein, on se racontait des choses très, très personnelles et tout ça. Enfin, c'était une... Ensuite, eh ben, dans, on s'en doute bien, hein, dans toutes les années de collectage que j'ai réalisées, ça n'a plus été possible parce que j'ai jamais fait le compte de combien de personnes j'ai rencontrées, c'est plusieurs centaines. Donc c'est impossible de conserver des relations avec toutes ces personnes-là. Et ça fait partie des choses très difficiles du métier, je trouve. C'est que ce soit des gens que j'ai vus deux ou trois fois et c'est tout, et à qui j'envoie uniquement les vœux pour la nouvelle année, même des personnes que j'ai vues qu'une fois, ça c'est difficile parce que presque j'aurais le sentiment, je dis bien presque, hein, d'avoir pris quelque chose à un moment donné et de m'être retrouvée confrontée dans une situation où eh ben, c'était pas possible de poursuivre le relationnel avec autant de personnes, quoi. Et dans les souvenirs de collectage que j'ai de certaines personnes, bah, c'est vraiment lié aussi, très souvent, hein, les histoires fortes, c'est souvent lié au fait que c'est des personnes que j'ai vues plein de fois. Je pense très souvent à M. Brandly, par exemple, le violoneux là, qui habitait au-dessus de la Bourboule. C'est une relation très forte, et puis avec sa femme aussi. La femme de M. Brandy s'appelait Madeleine. Et ça, je m'en rappelle très bien parce qu'elle fabriquait des madeleines comme jamais personne. J'ai rencontré personne qui faisait aussi bien les madeleines. Et chaque fois que je repartais, j'avais des madeleines pour les 15 jours qui venaient, même en offrant à tout le monde, tellement j'en avais. Et alors, ce M. Brandy, c'était absolument fabuleux. Je l'avais rencontré. Il n'avait pas de violon. Et donc, il a. Ça, c'est pas un problème, on peut vous arranger ça. Et donc, à l'AMTA, j'ai récupéré un violon et je suis remontée dardard, 8 jours après, là-haut, le voir. Et je lui ai ramené un violon. Et donc, il s'est mis petit à petit à faire du violon. Et donc, je suis allée le voir régulièrement. Pour dire, entre le moment où je suis allée le voir, où il n'avait pas de violon, et le moment où on a enregistré une émission, il y a de très beaux enregistrements à l'AMTA de Brandly, de France Culture, non, France Musique. Il s'était passé, je dirais peut-être des bêtises, mais 6 ou 8 mois. Il jouait comme un fou. Il avait repris ça, mais c'était quelqu'un qui arrivait à en faire 6, 7, 8 heures par jour. C'était de la folie. Et ce monsieur était ce qu'on nomme maintenant un peu maniaco-dépressif. Et quand il était en phase dans le creux de la vague, Madame Brandly et Madeleine appelaient à l'AMTA, ils disaient. Il a l'araignée qui lui gratte le plafond. Vous n'avez pas le temps de remonter? Allez, hop, prenez la voiture, je remontais là-haut. Allez, on se remettait à faire un peu de violon et tout ça, et hop, c'était reparti. C'est fabuleux quand même. C'est fabuleux. Mais bon, là, ça fait partie, c'est comme tous les violoneux chez qui on a été au tout début avec André et Olivier, et Daniel Fresquet, et Champeval, et Thierry Dalbavie, et Mira Kandar, et tout ça, chez Martial Sepp, chez Roussel, tous ces gens-là, c'était. Alors là, on les voyait régulièrement. Donc, ça, c'était. Bah, une immense peine, quoi. C'était la famille, quoi. Et puis, des choses dont on n'était pas peu fiers, quand même. Parce que, par exemple, je viens de parler de Roussel. Roussel, sa femme était institutrice. Et lui était marchand de toile. Et Madame Roussel, elle aimait beaucoup son François, hein, c'est pas la question. Mais bon, la partie violon, et puis la partie. Sa partie radiesthésiste, magnétiseur, tout ça, bon, c'était pas ce qui. Ah. Je pense qu'on peut le dire comme ça, elle portait une forme de regard condescendant un peu sur ces pratiques-là. Avec tout ce qui s'est passé avec eux, parce que il y a eu donc ces fêtes du violon dans lesquelles on a pris un plaisir pas possible à faire se rencontrer tous ces violoneux. Certains se connaissaient entre eux, d'autres pas. À se retrouver, ils ont échangé. Il y avait vraiment, au-delà de nous, notre relation individuelle avec les musiciens, on a reconstitué aussi une espèce de famille, parce qu'il fallait voir, hein, ces fêtes de la cabrette et ces fêtes du violon, c'était complètement, complètement fabuleux, quoi. Et Madame Roussel, un jour, elle nous a dit que. On l'avait aidé à comprendre des choses de son mari. et que le regard qu'elle portait sur son mari n'était plus du tout le même. C'était une période où la densité de musiciens était tellement importante, quoi. Ça faisait vraiment un gros groupe, quoi, de ces papis avec cette bande de jeunes, parce qu'il fallait voir à l'époque. Alors, encore une fois, les femmes dans la société, pas reconnues comme elles devraient l'être, en sens où je pense que c'est majoritairement quand même les femmes qui numériquement sont bien plus importantes que le nombre d'hommes musiciens, parce que c'était souvent les hommes musiciens, quelques chanteurs, mais quand même l'attention a été beaucoup portée sur les instrumentistes, alors que les femmes ont joué un rôle dans la transmission vraiment très important, quoi. Vraiment, vraiment très important. Parce qu'elles ont chanté le répertoire enfantin, par exemple, pour leurs gamins, elles ont chanté... Quand elles avaient des voix, quand elles chantaient bien à la messe, elles chantaient aussi, on les embauchait, on les invitait au mariage pour qu'elles lancent aussi. Moi, j'en ai connu pas mal, et moi, dans mon enfance, qu'on retrouvait systématiquement dans toutes les noces, parce que c'était des chanteuses, quoi, qu'elles lançaient le truc. Hein. C'était vraiment... Elles étaient reconnues pour ça, quoi. Et les femmes... Ouais, on leur a pas reconnu ça. Ah si, la cachaille, quand même. Ah oui, ça fait partie de mes chocs de jeunesse. Ah, je crois que la cachaille, j'ai dû la voir. Pouf, c'était tout... Moi, j'étais gamine, je devais avoir quelque chose comme 15-16 ans. Et ça m'avait choqué, cette première rencontre avec cette femme. Oh, mon Dieu, que ça m'avait choqué. Parce que, alors, ça m'avait énormément impressionné, la qualité de son chant. Et puis, elle avait une présence, vraiment... Mais par contre, j'avais été choquée par sa grossièreté, voire sa vulgarité par certains aspects. C'est comme une fois, c'est le groupe folklorique, il y avait ce préfet qui était là, c'était une fête quelconque, et Besombe était placé en face de la cassaille. Et il s'adresse à la cassaille avec sa bouteille de vin à la main, il dit « Buvez pas un pau de bi pour voir fin ?» Vous ne buvez pas un peu de vin, pauvre femme. Et alors la cachaille, elle monte sur ses grands chevaux, théâtral, comme elle sait le faire. Pauvre femme, pauvre femme, chabat de kejakou qui n'a pas au raffine. Il n'a pas au raffine, corrigine à fine, comme pas de pierre ou et you nay, nay, nay.
Chanson, ben y a les faux. Et le chanson, ben rovelé, ou éléphant tout, dormir à l'éo. Chon chon beni beni beni, chon chon beni alifo. E la campone i dolaucon, e su tumba dei villeston. Chon chon beni beni beni, chon chon beni alifo. E la campone i dolaucon, e caule i levo pierri gron. E caulo pluro logro nuvio, caune fodo lu porpo io. Son, son, veni, 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 son, son, veni alle fon. Tutto lo vieglio pluro, cavarentu, cavarentu. Le catre fer di lasci, o mai lu corri tu. E quando urentu tocco va, fumare la pipa sontava, tutto la vieglia pluro, cavarentu, cavarentu. Tutto la vieglia pluro, cavarentu, non rimpa pru. Toujours la vieille pleure, on finira tout, on finira tout. Les quatre fers de l'âne, même le carré tout. Et quand on aura tout fini, on fumera la pipe sans tabac. Toujours la vieille pleure, on finira tout, on finira tout. Les quatre fers de l'âne, même le carré tout. C'est traduit ça. Ça rime pas pareil. Tutto la vieille pluro, cavarentu, cavarentu. Le quattro fer di lasci, o mai lo corri tu. E quando urento toccava, fumare la pipa santava. Tutto la vieille pluro, cavarentu, cavarentu.
Tots la vieia plura, que veren d'un no haurem pas prou.